CJSO 101.7 est fier de vous présenter les sorties du vendredi.
Toujours aux sorties du vendredi en direct de chez Ramon Pizzeria. De la belle visite aujourd'hui, Michael Rancourt. Salut.
Salut, Luc.
Comment vas-tu?
Ah, très bien.
Nouveau spectacle,
ouais.
Les Inoubliants,
ouais.
Retour en salle, on peut dire ça un peu comme ça, retour dans le réseau des salles.
Exactement, exactement. Pas un retour sur scène parce que je n'ai jamais arrêté vraiment, mais oui, un bon retour qui était dû, qui était vraiment dû dans le sens que, bon, ça faisait longtemps que le circuit des salles, je n'avais pas fait, ça fait longtemps que je voulais faire un spectacle différent de tout ce que j'avais fait avant aussi. Et je trouve que ce spectacle-là s'y prête bien pour les salles de spectacle. C'est pas un spectacle comme on se parlait à Ordon tantôt, que c'est pas fait pour les festivals, c'est pas fait pour, ouais. C'est pas fait pour un public qui écoute pas. Faut que ça soit vraiment, les gens soient concentrés et qui écoutent le spectacle. Dans une salle de spectacle, on a tous ces avantages-là. Et la réception, ben, les gens le sentent. Ce que je voulais que les gens sentent, je pense que j'ai une belle mission accomplie parce que ça réagit beaucoup dans le show.
La genèse un peu de tout ça, c'est suite au décès de Michel Louvain.
Exactement.
Parce que Michel a été un peu la personne qui t'a donné ta première chance à la télé, en tout
Exactement.
Cas.
Exactement. Ouais. En 88, j'ai fait un téléthon à Québec qui était juste dans la région de Québec, qui était pour les familles. Ça s'appelait le Noël du bonheur dans le temps. Et Michel était l'animateur avec Suzanne Lapointe. J'ai fait un numéro là, et à un moment donné, j'ai fait des imitations. Je faisais Claude Barsotti, je faisais Herbert Léonard, René Simard quand il était tout petit avec la chanson
L'Oiseau. L'Oiseau.
Exactement. Et Michel avait remarqué ce que je faisais, puis il me disait, à l'époque, j'avais quelqu'un qui s'occupait de moi, comme un agent qui s'occupait de moi dans le temps, puis il me dit, hey, ce petit gars-là, je veux l'avoir sur mon show, qui était de bonne humeur dans le temps.
Oui, qui était comme le rendez-vous télé en direct, sur l'heure du souper. Ouais.
Exactement, et puis il n'y avait pas de on n'enregistrait pas, là, c'était direct.
Ouais.
C'était comme ça. Et ça a été le début. Michel m'a donné cette chance-là. Après ça, il y a plein de choses qui se sont enchaînées, mais j'étais pas prêt encore à faire des tournées. J'étais peut-être prêt à vouloir le faire, en tout cas, parce que, bon, le fait que les gens m'ont vu faire ces émissions de télévision, là, après ça, j'ai fait plusieurs événements privés pour prendre l'expérience sur scène et tout ça. Et un jour, en 91, l'émission de télé de J.C. Lauzon dans le temps,
Métropolis,
exactement, ça a été le déclencheur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Luc, ce soir-là. Il s'est passé quelque chose. Et moi, sur le show, qui était en direct aussi, j'ai eu un standing ovation que J.C. me regarde et me dit, j'ai jamais eu ça sur mon show, un standing ovation de mon public dans le studio de Métropolis. J'ai jamais eu ça. Et bizarrement, ce soir-là, il y a plein de monde qui sont devant leur télévision qui disent, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est tout du monde show business, des gens. Le lendemain, ça sonne. Chez mon gérant, Pierre Gravel, ça sonne. Et là, il dit, hey, ce gars-là, je veux le produire, Avanti, production Avanti à Montréal, la grosse maison de production qui voulait m'avoir dans son écurie et tout ça. Et tout ça a déclenché après ça pour faire se rendre jusqu'à aujourd'hui.
Et je disais le déclencheur, le décès, parce que tu as partagé une photo de Michel.
Ouais.
Et c'est les gens sur Facebook qui t'ont proposé un genre d'hommage à Michel, en fait, au départ.
Exactement, exactement. Et je trouvais ça intéressant et j'ai dit oui. C'est une très bonne idée, mais pas juste à Michel. Faire tout ce qui est les artistes décédés, disparus, ces voix francophones. Je voulais faire ça différent. Toutes les shows d'avant avaient de l'anglophone dedans, toutes sortes d'affaires. Et là, je voulais vraiment faire un spécial des artistes appréciés de ces voix-là, de ces artistes disparus, mais jamais oubliés, bien sûr. Michel Louvain, Joe Dassin, toute cette gang-là. Et finalement, les gens ont dit « Waouh, c'est une bonne idée ». Et là, les gens m'ont donné... le genre d'imitation, le genre de voix qu'ils voulaient avoir dans ce show-là.
Okay.
C'était leur suggestion. Ils m'ont même donné le nom du titre, le titre du spectacle qu'ils ont choisi en deux, trois affaires, je leur ai donné. Et à ce moment-là, tout s'est enchaîné. Une grosse année de montage, de production, de pratiquer quelle chanson je fais, ici et ça. Et le show, c'est une bonne année de préparation.
Et un autre genre de show, parce que généralement, c'est énormément de voix et tout ça passe très rapidement.
Exact.
Là, tu as décidé de t'installer pour chaque voix. Il n'y aura pas qu'un bout de chanson, il y en a plusieurs.
Exactement. T'as bien, hey, t'as fait
mes devoirs.
Hey, mon doute. Non, mais c'est, j'aime ça, un gars comme toi qui connaît son dossier. C'est le fun au bout. Mais
c'est, et encore là, c'est le public qui a choisi.
Effectivement. Les gens ont choisi. Et comme tu disais, de faire un petit bout de Patrick Normand ou de faire juste un petit bout de 30 secondes, les gens ont comme le goût de chanter. Puis à un moment donné, tu leur arrêtes ça après 30 secondes. Ouais. Alors, ce que j'ai décidé dans ce show-là, c'est qu'il y avait tellement de suggestions de chansons. De chaque imitation que je faisais, j'ai dit pourquoi ne pas en mettre plusieurs? Ce qui me donnait la chance de pouvoir faire un hommage encore plus grand à chacun, ouais, et de les installer comme il faut. Mais le défi est différent à ce moment-là. Quand tu fais 30 secondes, ton imitation, il faut que tu la fasses 30 secondes. Mais là, quand il faut que tu la fasses durant 4-5 minutes.
Et mieux d'être à coche.
Ben là, c'est ça.
Ça peut pas être à peu près.
Et puis,
ça faut que ça soit.
Fois, ouais. Des fois, ce que les gens ont peut-être pas remarqué, c'est que certaines intonations d'une imitation dans une chanson, ça va, mais dans l'autre chanson, ils sont plus hauts, ils sont plus bas.
Ben oui.
Alors, tout ça fait que le défi est plus grand. Le défi était intéressant aussi, parce que, tu sais, tant qu'à faire des imitations, j'aime autant les faire, puis que les gens soient contents.
C'est
et
sûr.
Ça chante. Ça chante. Tu sais, quand je fais
c'est tout des tonnes connues.
Chansons,
c'est que des tonnes connues.
Ben de oui. Michel Louvain, de Gilbert Bécaud. Je fais Boule Noire avec les années disco, parce qu'il fait ses Aimer d'amour et tout ça. Et tout ça fait que cette dimension-là, les gens l'avaient pas eu de moi, de faire une imitation durant plusieurs chansons, durant plusieurs extraits de chansons plutôt. Et ça, ben, les gens apprécient. Ils m'ont dit, ah, moi, c'est le meilleur show que j'ai vu de toi parce que tu prends le temps de nous faire écouter vraiment la voix que tu imites et tout ça. Et tu nous emmènes dans ton hommage en même temps parce qu'on chante tout le long.
C'est ça. Ouais. Et ça permet aussi, si par exemple, Joe Dassin, il y en a de la toune, là.
Hey, ça n'a pas de bon sens.
On pourrait dire, ben OK, on fait 30 secondes des Champs-Élysées, puis that's it. Sauf qu'il y a des gens dans la salle que c'est pas leur préféré, puis il y en a plus une autre.
C'est en plein, ça.
Là, en jouant trois, quatre chansons, on a des chances de toucher à la préférée de quelqu'un.
Oui, exactement. Ça, Benoît Labonté, qui fait l'hommage à Joe Dassin, je ne sais pas si tu as vu. Benoît est un ami à moi, puis j'ai dit, Benoît, c'est quoi les meilleures chansons de Joe Dassin que les gens... Tu sais que ça, c'est où tu commences, les gens chantent. Puis celui qui m'a donné un peu, avec le choix des gens qui m'avaient suggéré, de faire trois, quatre imitations de Joe Dassin. C'est une belle voix à faire, Joe Dassin.
Est-ce que le plus grand défi, parce que j'ai vu quelques noms dans le spectacle, est-ce que c'est Dalida? Parce que Dalida, c'est autre chose. Premièrement, c'est une femme.
Ouais.
Et elle avait une voix spéciale, Dalida. Ouais, les airs, il y a quelque chose là-dedans. Là.
Ben, Dalida...
Il y a des beats de tunes qui sont vraiment pas pareils d'une à l'autre.
Oui, puis quand tu fais Dalida, c'est une voix qui est éteinte un peu par rapport à ma voix, à la mienne. Ça, c'est comme... T'sais, c'est comme un filtre, pas un feutré, sa voix, pas éteinte, mais plutôt feutré. Mm-hmm. Et quand tu montes une voix feutrée, c'est très difficile à faire. Alors, quand je fais Dalida, Claude François aussi.
Oui, qui lui était secondaire, il pitch Claude François.
Lui, là, quand tu fais comme d'habitude, là, puis tu sais, moi, j'essaie de le rendre à peu près la même tonalité que lui faisait, puis je peux te dire que ça, c'est pas mal mon top de voix. Là. Quand je suis en haut de comme d'habitude, là, c'est vraiment, là, faut pas que j'aie la grippe parce que je suis pas sûr que ça va se rendre jusqu'en haut. Mais non, mais ça, c'est des belles voix à faire. Puis tu sais, autant que je fais Jerry Boulet dans un medley et le. Cinq minutes après, c'est Dalida. Et cinq minutes après, on tombe avec Claude François. On tombe dans trois voix complètement différentes, ce qui fait que ça donne une belle... Les gens apprécient ce genre de voix-là, c'est sûr.
Mais attends, ça prend une mise en forme vocale, parce que là, de passer de Jerry à Dalida, ça se fait pas un claquement de doigts. Là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit entraîné dans la voix.
Oui, ben je pense que chaque imitation...
Évidemment, il y a l'expérience.
Oui, c'est ça. Chaque imitation, pour moi, ça devient... Je vais donner un exemple. Quand je fais, dans mon spectacle, Les années de Jukebox de Pierre Fassinatra, je faisais l'hymne à l'amour avec 12 voix différentes. Alors, cette chanson-là, quand je commence avec Édith Piaf au début, après ça, ma voix sait que l'autre phrase d'après, ça va être Mario Pelcha, l'autre phrase d'après, ça va être Félix Leclerc, l'autre fois, j'ai Vigneault, après ça, et tout ça s'enchaîne, mais... Ça prend beaucoup de préparation. C'est un numéro qui m'amène à me concentrer différemment parce que chaque phrase a sa voix. Et dans le spectacle, vu que je le fais comme durant 3-4 extraits de chansons, ça me permet de l'installer comme il faut aussi. Mais l'exercice de l'hymne à l'amour, là, c'est vraiment... Là, c'est là que tu t'aperçois, tu dis, bon, là, ça switch vite d'une voix à l'autre. Et c'est ça qu'il faut faire aussi quand on fait un show d'imitation. Il faut quand même impressionner les gens avec des petits détails comme ça. Autant que l'humour que je fais dans Les Inoubliables, c'est un... Je parle de la technologie, je parle un petit peu de la COVID, parce que ça a changé tellement de choses pour tout le monde. J'en parle un petit peu, mais pas longtemps, avec humour, bien sûr. Les époques aussi où on arrivait dans les discothèques avec Boule Noire, avec les Boum Boum et toute cette époque-là de cette musique-là. Mais tu sais, tout ça s'installe tranquillement au début du spectacle jusqu'à la fin, mais effectivement, les changements de voix d'une voix à l'autre, ça donne toujours son résultat.
35 ans de carrière, ça te fait quoi? D'abord, c'est une chance inouïe, parce que ce métier-là, on ne sait jamais, on sait quand ça commence. Mais on ne sait pas le temps que ça va durer.
Oui, un très beau privilège, vraiment. Je me sens... puis tu sais, ordonne, je te le disais tantôt, j'ai encore la passion de ça, j'ai encore le goût d'en faire longtemps. Puis tu sais, on décide pas ça. Les gens sont là, c'est parfait. Hein. Mais à partir du moment où ils ne sont plus là, ben
ça s'arrête.
Ça s'arrête aussi. Tu sais, c'est on a bien beau vouloir faire un show, les gens viennent pas, ça donne rien. J'ai un grand privilège. Les gens ont l'air encore à aimer ce que je fais et tout ça, à être là, être présent et tout ça, de m'encourager dans mes projets depuis 35 ans et d'y aller tourner, toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a des dates cette année, en 2023, c'était 35 ans de carrière, 10e tournée, mes 60 ans. Il y a des dates importantes qui s'installaient dans cette année-là. Je ne sais pas si les planètes, comment ça s'enligne avec toutes ces choses-là que je ne connais pas vraiment, mais il y avait des belles choses cette année que je voulais souligner et je voulais le faire avec les gens.
Est-ce que c'était pour fêter tout ça que tu as décidé de lancer un spectacle? Tu t'es dit, le timing est bon, là, tout est là.
Il y a des affaires qui se sont enlignées tout seul, effectivement. Quand j'ai eu cette proposition-là, c'était en 2022 quand même. Et oui, genre, 2023, 35 ans. Oui, effectivement, tout s'est enligné pour que ça devienne comme ça. C'est sûr que ça va durer plus que 35 ans parce que cette année, j'étais en tournée. L'année prochaine, je le suis encore dans des dates.
Oui.
Novembre, décembre, l'année prochaine. Et probablement peut-être 2025 aussi. Mais il y a plein de choses qui s'est installées pour que je fête ça tout en même temps. T'sais.
La pandémie a amené une espèce de vague de nostalgie.
Ouais.
Aussi. Tu le sens dans ce spectacle-là, j'imagine, parce que c'est ça que ça vient chercher. C'est cette fibre-là que ça vient résonner chez les gens, les artistes de l'époque qu'on aimait.
Oui, et tellement que je le reçois aussi après chaque spectacle, je rencontre les gens. J'étais au Casino de Montréal et il y a une dame qui vient me voir après le spectacle. Elle me dit, vous m'avez fait pleurer.
C'est sûr.
Bon, ben, dites-moi pourquoi. T'sais, elle dit, quand vous faites Dalida, ça me rappelle l'époque que j'étais avec mon mari. On devait aller voir Dalida à Montréal, mais elle est décédée avant. Fait que nous, on avait comme idole Dalida. Vous me ramenez ça après-midi. Fait que vous me ramenez aussi le fait que mon mari est plus avec moi parce que la madame avait 92 ans. Vous me ramenez le fait que mon mari est plus là. Vous me ramenez le fait qu'on était supposé aller voir Dalida et vous m'avez ramené tout ça, les chansons que vous faites et j'ai pleuré. Mais dans une nostalgie, ce que tu dis, c'est vraiment ça, la nostalgie des... Moi, je suis un gars de nostalgie de la vie. Je parle avec Thérèse, ma nouvelle amie. Et je parle de ça, de ma jeunesse quand j'étais tout petit, puis j'ai encore cette... J'ai le goût de continuer. Et bizarrement, ma sœur m'appelle en m'emmenant tantôt. Elle me dit, tu viens-tu à Québec? Je dis, oui, je vais retourner à Québec parce qu'il faut que j'aille voir la maison grand-papa et grand-mère. Parce que je retourne là. Moi, je vais voir Laurent du Golfe, la Quai de Chemin. Je vais voir ça. Je suis nostalgique. J'ai le goût de me souvenir de tout ça.
Tu as parlé des artistes musicaux disparus qui sont dans le spectacle.
Ouais.
Mais il n'y a pas que les artistes musicaux.
Non,
il y a les gens qui ont marqué notre vie en humour ou à la télé ou peu importe, mais qui ne sont pas des chanteurs.
Non, effectivement. Ben, ça fait partie un peu de mes liens que je fais entre chaque imitation chantée. Autant que le regretté Pierre Légaré, que je dis qui revient qui revient du ciel pour nous donner encore quelques...
Quelques questions.
Questionnements, que même s'il est en haut là-bas, il se questionne encore. J'ai René Angélil qui vient faire un petit tour, qui vient donner des conseils à Michael Rancourt après tant d'années, savoir comment pour continuer tout ce que je fais. Le capitaine Bonhomme qui revient aussi avec une histoire rocambolesque avec l'oncle Pierre, bien sûr. Et il y a plein de monde comme ça qui reviennent de temps en temps dans le spectacle. Comme ça, les gens s'attendent. Et tu sais, les gens, ils ont une certaine curiosité quand ils imitent. Et vu que le show, ils savent pas trop qui va arriver après telle imitation. Ben, il y a toujours une surprise qui arrive à un moment donné dans ça, qui fait que, bon, il y a une curiosité. Les gens, je sais pas qui va y faire après. Je sais pas qui va imiter.
Oui, oui.
Je sais pas qui va venir présenter le prochain numéro. Alors, ça suscite une petite attente, c'est le fun.
Et ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est presque le trip de la rockstar que tu vis, parce que les gens chantent avec toi.
Ah, ouais.
Tout le long. Du début à la fin.
Ouais. Ouais, tout le long.
Comme un artiste musical.
Ouais.
Tu as l'impression d'être porté par l'amour de ces gens-là envers ces artistes-là. Tu reçois un peu de l'amour que ces artistes-là ont reçu toute leur vie.
Je pense que c'est un grand privilège de pouvoir... Bon, j'ai la chance de chanter ce que je te disais tantôt depuis l'âge de 8 ans. S'il va faire 52 ans cette année. J'ai-tu dit ça, moi, là? Oui, j'ai dit ça.
Ah ouais.
Et je trouve que c'est une belle chance de pouvoir chanter, de pouvoir bien chanter aussi, parce que, bon, pour imiter tout ce monde-là, il faut quand même avoir une certaine justesse,
oui,
sans avoir pris de courte de chance, sans avoir pris rien. Et ça, pour moi, je me dis, quand j'imite, autant qu'on parlait de Dalida tantôt, que je fasse Michel Louvain, que j'imite les autres, j'ai cette belle opportunité-là de pouvoir les imiter et de pouvoir être près de cette voix-là. C'est une grande, grande chance quand même de faire ça. T'sais, moi, je le fais avec ce show-là. Je l'ai fait avec les autres voix que j'ai faites avant. Mais il me semble que ce show-là, il est encore plus... il est assis, là. Il est sur scène. Puis ça, les gens, en plus, sur scène, j'ai des projections sur scène qui donnent... J'ai quatre chanteurs que je donne un peu plus de place dans le spectacle, où je donne une information sur écran géant.
Okay.
On parle d'à peu près une minute, on parle
genre
un peu
de biographie?
Exactement.
Okay.
Où je donne le combien d'albums ils ont vendu.
Okay.
Bon, autant Pierre Lalonde, parce que bon, en vieillissant, on me dit souvent sur scène, en habit, avec mes cheveux blancs maintenant,
que tu ressembles
à Pierre Lalonde. Et quand je l'imite, ben, il y a comme cette magie-là. Chaque show, les gens disent... Ah, vraiment, tu as raison. On voit Pierre Lalonde sur scène. Louvain aussi, Michel Louvain, quand je fais l'hommage à Michel, l'hommage à Pierre Lalonde, l'hommage à Joe Dassin et l'hommage à Jerry Boulet, qui était encore aujourd'hui le grand rocker du Québec. Mais tous ces hommages-là donnent un petit peu plus d'informations sur leur carrière sans être obligé de l'installer moi-même sur
scène. C'était 8 ans, donc
oui,
ça a commencé.
Ça.
Un hasard total. Là.
Exact. Bien, parce que l'école où j'étais, quand j'étais tout petit, le samedi matin, ben, la chorale. Et nous, chez nous, mon frère, mes deux frères et moi, on allait dans la vitrine de l'école et on regardait la chorale qui chantait tous les samedis matins. Et on trouvait ça intéressant, même si on ne savait pas qu'on était capable de chanter. Parce que, tu sais, on était comme tout le monde, on chantait à l'école, mais tu sais, pas plus que ça. Et la religieuse s'occupait de cette chorale-là, nous voyait tous les samedis matins vers 9h, moins quart, 9h. Ça commençait vers 8h30, 9h, la chorale. Et à un moment donné, venu nous voir dehors, elle dit, « Voulez-vous venir chanter avec la chorale? » Ben, nous, on n'a pas beaucoup de sous chez nous. C'est pas grave. Rentrez, chantez, puis on va voir qu'est-ce que vous avez le goût de faire. Si ça vous tente de rester, vous restez. Vous êtes les bienvenus, ça ne coûte rien. Et finalement, ça a commencé là. J'ai commencé à chanter, j'avais 8 ans. Devant 250 personnes, j'avais fait 3 chansons.
Est-ce que tu as senti quelque chose là? Est-ce que tu dirais que c'est la bougie de l'image la suite?
Oui.
Ça ne devait même pas être dans ta tête avant ça, cette idée de carrière-là.
Mais tu sais, puis même encore là, je j'avais vraiment pas cette idée-là non plus, même après. Tu sais, quand j'ai commencé à 8 ans, il y avait 250 personnes qui m'applaudissaient. C'était gratifiant, c'est sûr. Je dis, bon, ben, la régie s'occupait de moi. Elle avait raison, j'avais peut-être un certain talent pour être capable de faire quelque chose devant ces gens-là. Mais après ça, il est arrivé, j'ai commencé à jouer de la guitare, donner des cours de guitare à des jeunes. Après ça, j'ai commencé avec un band, j'avais 14 ans, 15 ans. On jouait des réceptions de noces, des mariages, toutes sortes de choses comme ça. Et après ça, j'ai dit, j'aimerais ça faire la musique comme chansonnier, tout ça. Et je me suis équipé d'un système de son que mon père avait acheté à mes frères à l'époque. Et là, c'est moi qui l'avais. Je me suis acheté une guitare qui m'avait coûté 80$. Guitare électrique que je branchais dans une vieille amplificateur Fender qui avait toutes les amplis à lampe dans le
temps.
C'était les sons incroyables. Mais tout ça, j'avais tout ça. Et j'ai commencé à jouer avec la musique avec ces musiciens-là. Et après ça, je suis allé tout seul. Et le premier bar que j'ai fait, j'avais même pas l'âge de rentrer, j'avais 17 ans. Et je jouais j'arrivais à 10h moins quart pour jouer à 10h. Puis à 3h moins quart, le patron venait me reconduire chez nous. J'avais même pas d'auto. Mon père venait me reconduire pour jouer de la musique là, à 10h moins quart. Et à 3h moins quart du matin, le propriétaire travaillait dans un autre bar. Et lui, il arrivait, puis il venait me reconduire chez nous, l'autre bord du pont de Québec, parce que j'étais à Charny, ça arrive ça, à l'époque. Alors ça, c'est tout ça. Et même encore là, Luc, je ne savais jamais que j'allais faire ça comme métier. J'avais du plaisir à le faire. Les gens avaient l'air aimé ce que je faisais. Et ça a continué comme ça. Et là, à un moment donné, quand on parlait de Michel Louvain tantôt, j'avais provoqué un petit peu ce bout-là sans savoir ce que ça allait donner. J'avais amené une cassette avec des imitations à une station de radio de Québec qui s'appelle CJRP dans le temps. Et Régent Lacroix, le gars qui était directeur des programmes là-bas, je vais lui porter une cassette avec quelques imitations dessus. Ils me disent, on va lui donner ça. Je dis, non, je veux qu'il l'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux qu'il l'écoute. Je vais attendre dans la salle d'attente, puis je veux voir qu'est-ce qu'il en pense. Ils disent, OK.
T'avais du front quand même?
J'avais du front. En tout cas, je me souviens qu'alors j'avais 22 ans. Pas trop. Et finalement, ils vont y porter la cassette dans son bureau. Ils écoutent ça. Et là, il arrive dans la salle d'attente. Il dit, c'est-tu toi qui fais ça? Je dis, oui. Ils disent, on peut-tu se parler? Je dis, oui. Parce que moi, je savais que c'est lui qui organisait tout le téléthon de Michel Louvain. Alors, j'avais la plug. Je suis allé le voir et il me dit, tu veux-tu faire le téléthon? C'était mon but.
C'est un peu pour ce chien-là. Ouais.
C'était mon but. Et finalement, je l'ai fait. C'était le déclencheur de ce qu'on se parlait tantôt, finalement, où que Michel m'a invité à son émission. Tout ça, et c'est parti là. Puis même encore là, tu sais, quand on commence, on ne sait pas combien de temps. Ouais. Tu sais, moi, tu dis, ça fait 35 ans, mais tu sais, on ne s'aperçoit pas du temps qui passe. Le temps arrive, puis des fois, on ne l'a pas vu passer. Tu sais.
La première imitation, est-ce que c'était un prof ou un ami? Ou est-ce que c'est à l'école que ça se passe? Non?
Un prof. Mon prof d'histoire qui m'avait tiré une craie. Parce que je suis
sympathique. OK, OK. C'est toi qui as couru à vrai.
Non, c'est moi. C'est moi qui ai couru à craie.
Oui, c'est ça.
Ben, c'est arrivé que le professeur, toute la classe est là, et le professeur n'est pas arrivé encore, parce que la porte était ouverte. Et moi, je m'en vais en avant, puis il y avait un parquet assez particulier, et je l'imite, mais durant que je suis en train de l'imiter,
il arrive,
lui. Et là, moi, je m'en vais à ma place, et là, il prend sa craie, puis il me dit, tu ne feras plus jamais ça. Puis il parlait un peu, tu ne feras plus jamais ça. Et bizarrement, quand j'ai commencé ma carrière à blablabla avec Daniel Ouimet, ce prof d'histoire-là est venu comme invité surprise pour me faire une surprise et tout ça. Et la seule chose qu'il disait, lui, il était rendu diacre. Parce que les historiens, des fois, prof d'histoire, lui, il avait comme une certaine... il était rendu diacre. Monsieur très gentil, très... Tu sais, quand on est jeune, on fait des niaiseries. Mais tu sais, c'était quelqu'un de très gentil, très cultivé et tout ça. Et lui, il avait parlé en bien de moi. Puis il se souvenait de tout ça, là, que je l'avais imité, puis toutes ces affaires-là, mais après tant d'années. C'est ça, c'est les imitations que j'ai faites. La signature de mon père, c'est mon premier bulletin.
Ça, c'était un autre genre d'imitation.
c'était pas gagnant, ça. C'était pas gagnant.
Le numéro, il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Est-ce que ça a été un élément déclencheur de la popularité, disons ça comme ça?
C'était le numéro que les gens ont remarqué, qui a été fait différemment, ou qui a amené une différence de toutes les imitations qui avaient été faites auparavant, soit par d'autres imitateurs ou par moi au départ. Oui, ça, c'était comme... c'était un numéro qui était comme... On n'avait jamais entendu ça, ce genre de numéro-là, qui était avec des sons, des bruits, tout ça. C'est sûr que tout ça suscitait la curiosité tellement que des fois, il y en a qui me disaient, c'est pas toi qui fais ça, tu fais
une bande.
Exactement. Non, tous les sons étaient là, effectivement. Ça faisait une différence de tout ce qui avait été fait.
Est-ce que encore aujourd'hui, tu le fais? Ou tu ne le fais plus?
Non, je le fais encore.
Est-ce qu'il est dans le show?
Oui, je le fais. Okay. C'est mon rappel de show.
OK.
Après les demandes spéciales.
Les gens ont voulu le revoir. On parlait de la nostalgie. Là, ouais. Ça, c'est ta nostalgie à toi. Ben, eux c'est aussi, parce que c'est leur film, un film avec lequel ils ont grandi.
C'est un peu ce que je dis.
Mais c'est la nostalgie de toi.
Oui. À la fin du spectacle, je dis, je vous fais maintenant mon numéro de ma nostalgie à moi. Je vous le présente. Et c'est comme ça que je l'amène, parce que ça fait partie d'un peu comme de moi, de mes débuts, que les gens ont remarqué surtout de moi. Alors, à partir de là, il est encore là, puis les gens ont encore une très grande satisfaction.
C'était né comment, ce numéro-là?
Pardon?
Il était né comment, ce numéro-là?
Il est né avec mon premier directeur musical, qui est Jean-Pierre Lalande.
OK.
Qui était mon directeur musical, qui a monté des bandes sonores. J'ai dit, un moment donné, il me dit... As-tu un numéro que tu veux faire qui va faire un peu de différence avec tout ça? Puis là, on regarde dans ses affaires. Il dit, moi, j'ai un numéro que je fais. Il dit, il me semble que je te verrais faire ça. De faire ça, mais de faire toutes les sons dedans. Ça. À un moment donné, je dis, bah, c'est une bonne idée. Et après ça, en studio, je dis à Jean-Pierre, je dis, j'ai une idée. Je vais faire ton numéro, tu vas me sortir la bande sonore, rien. Je ne veux pas avoir rien, juste avoir le son de la musique qui me donne l'air et je vais tout rentrer des sons dedans. Je vais tout rentrer ça. Ça, c'était vraiment comme un travail de...
Madame Moine.
un bon 6 mois de répétition, de savoir quel son j'allais faire à telle place et tout ça. Et de le rendre pour que ça soit comme... spécial aussi. Tu peux avoir une idée de le faire, puis qu'après ça, tu vas voir, on ne sait pas, c'est bon, on ne le fera pas. Mais c'était vraiment de le faire précisément, de le rentrer son par son, puis d'arriver, puis de dire un moment à la fin, waouh, j'ai des frissons qui me passent les bras, et encore aujourd'hui, après 35 ans, les gens ont encore ces frissons-là sur. Tu sais, moi, je me souviendrai d'un show, j'ai fait à Saint-Hyacinthe, à un moment donné, la fille vient me voir après le show avec son chum. Son chum mesure 6 pieds 4, 6 pieds 5, 250, 300 livres. Puis elle me dit, il braillait comme un bébé quand tu as fait ça. C'est comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il dit ça, là, ce film-là, il regardait ça avec son père quand il était petit. Puis tu l'as ramené là. Tu l'as ramené où ce que lui, son père est décédé, ça fait quelques années. Et tu l'as ramené là avec ce film-là que lui, c'était comme le film qu'il avait écouté à l'époque. Exactement, c'était son moment. Et ça, c'est ça.
Est-ce qu'il y avait un son qui était plus difficile à faire que les autres? Est-ce qu'il y en a un qui t'a demandé plus de pratique?
L'harmonica. L'harmonica du début, c'était comme, premièrement, je fais ça comment? Faut que je fasse un son d'harmonica, mais je me souviens pas trop comment que je l'ai fait la première fois. Là. C'était vraiment le vibrato et tout ça. Il fallait que je le fasse avec ma main en avant pour que les gens sachent pas que c'est moi qui l'imite. OK? Au début, le but de ce numéro-là, c'était vraiment de l'installer et de faire l'harmonica. Mais quand je commence ce numéro, je mets ma main devant la bouche.
Et les gens pensent
que j'ai une harmonica.
Ouais.
Et c'est ça qui était le but. Mais quand je fais, à la deuxième fois que je fais l'harmonica, j'enlève ma main. Et là, ils entendent le son pareil. Ils font, voyons, c'est quoi ça? Comment il fait pour faire ça? Et c'était le but de le faire en surprise, parce qu'avec le chapeau, le grand manteau et tout ça, vraiment, j'installais ce numéro-là et les gens ne savaient pas pantoute à quoi s'attendre. Et quand j'enlevais ma main, là, c'était « wow ». Là, ça se passait quelque chose. Autant que quand j'ai fait mon premier spectacle, je faisais la chanson « Caruso » avec la voix de Pavarotti sur mon spectacle. J'étais au Théâtre Saint-Denis, le grand Théâtre Saint-Denis.
Le 1.
Le 1. Et quand je faisais « Caruso », quand j'arrivais, je prenais le pied de micro avec
tu
le micro.
Tassais. Je le tassais. Moi, je me souviens de ça.
Et je le faisais comme si... Je le faisais. J'avais un petit lavalier qui était caché ici pour que ça sente jusqu'en arrière, mais techniquement parlant, il y avait quelque chose qui se passait que les gens n'avaient pas fait encore avant. Et là, c'est ça différencie. Tu sais, c'est des petits moments comme ça. Le numéro Hotel California, je ne sais pas si tu as déjà vu quand je faisais ce numéro-là, c'est le disque qui saute aussi. Ça, c'est une belle idée que j'ai eue. Et je le fais encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ne l'ont jamais entendu. Le disque qui saute. Et moi, j'enlève les mots et j'enlève les espaces qui sautent en même temps que le disque. Et ça, c'est un numéro qui était fait à l'envers de ce que les gens peuvent penser. On n'a pas enlevé les sons après que j'ai fait le numéro. On a monté le numéro en conséquence de ce que je faisais sans musique.
OK.
On l'a fait après les coupures. Parce que le gars, là, dans le studio, il dit, « Comment tu veux qu'on fasse ça? Tu me suis. Je commence. » Et tu vas couper où? Je fais toujours les mêmes réflexes. Ce numéro-là, je l'avais monté avec les mêmes réflexes de coupure dans ma voix. Et ça montait un après l'autre. Les coupures étaient là. Et encore aujourd'hui, je le fais. Ma voix coupe à la même place. Ça, c'est vraiment instinctif. Ça a passé comme ça. Puis c'est encore un numéro qui marche. Des beaux numéros, c'est ça. Des beaux numéros qu'on sait.
Michael, dans ta carrière, il y a eu des expériences de gang, les trois ténors de l'humour, les duplicateurs. C'était comment ces moments-là où, cette fois-là, la pression ne reposait pas que sur tes épaules? C'était partagé, en fait.
Oui, mais les concepts étaient tellement bons. L'idée de ces spectacles-là ont été ça a tellement bien marché qu'à un moment donné, oui, il y a la pression d'être bon sur scène, mais il y a cette énergie-là autour qui fait que on avait les gens étaient au rendez-vous, la maison de production qui nous produisait à l'époque avait confiance en ce qu'on faisait. Il y avait comme toute cette dimension-là d'énergie qui nous donnait pas de, oh, ça nous enlevait pas de pression. On en avait tout autant, mais chacun à 100 % qu'on donnait sur scène, là, les trois.
Oui,
ça faisait 300 % avec
oui.
la belle équipe de scripteurs. Puis
et ça permettait plein de choses. Ça, c'est trois voix différentes, puis on peut aller à plein de places.
Exactement. Puis ça nous a amené aussi. Moi, personnellement, ça m'a ramené un peu aussi. Ça m'a ramené un petit peu parce que, bon, les premiers spectacles que j'ai faits, ça avait fonctionné. Le rencours circuit qui était fait en 98 a été comme. Ça n'a pas marché plus que ça. T'sais, ça a été comme un petit peu. J'ai été un petit peu à moi-même, à monter ce show-là par moi-même avec une équipe, mais qui n'était pas autant concentrée sur ce qu'on faisait. Et je n'avais pas l'expérience d'aujourd'hui. Ce qui fait que, bon, j'ai tout mis sur mes épaules et c'est moi qui a fucké sur plein d'affaires dans ce show-là, qui a fait que, à un moment donné, ça n'a pas levé comme je voulais. Et quand l'offre des trois teneurs est arrivée, avec toute l'équipe autour, maison de production Octan dans le temps, tout ça a fait que ça m'a ramené dans une certaine. Les gens ont redécouvert. Les gens ont redécouvert une certaine présence de mes shows et tout ça. Les imitations que je faisais dans ce spectacle-là, je ne les avais pas vraiment faites dans d'autres spectacles. Alors, ça m'a ramené. Ça m'a donné une bonne chance, puisqu'on a fait quand même 300 shows avec ce spectacle-là, partout. Alors, ça m'a ramené vraiment dans les affaires. Après ça, les Duplicata sont arrivés avec Claire Bienvenue, qui était une excellente imitatrice aussi à l'époque. Et après ça, ben, tout est arrêté avec cette maison de production-là qui a fermé, finalement, que comme tout. Tout artiste qui était au bureau de cette production-là a terminé. Alors, c'est là que j'ai pris en main toutes mes affaires avec tout ce bagage-là de mes premiers spectacles qui m'a donné la confiance de dire, bon, je me suis trompé avec quelques affaires et là, je suis arrivé. Je ne dis pas que je ne me suis pas trompé sur les autres aussi, mais j'avais beaucoup plus de confiance en moi pour pouvoir prendre mes choses en main. Plus de gérant, plus de producteur, plus de personne qui s'occupait de mes choses. C'est moi qui me suis reviré sur une grosse pièce. Là.
Oui.
Je me suis donné un petit peu plus de place pour pouvoir commencer tranquillement à m'entourer de gens qui me donnaient un coup de main pour repartir ces affaires-là. C'était des années un petit peu plus tranquilles. Les gens m'ont perdu de vue un petit peu. Après ça, j'ai remonté des spectacles et tout ça. Mais tout ça, tu sais, on ne peut pas avoir un 35 ans parfait. Là,
non, non.
Il y a des petites affaires qui sont arrivées dans ces années-là, mais qui ont aujourd'hui, c'est du passé. C'est comme là, ça va bien.
Là, il y a l'Europe qui est peut-être dans les plans, qui est un vieux rêve, qui arriverait finalement à 60 ans. C'est pas rien quand même.
Ben, ça va être plus en 2025 parce que là, on a un heureux problème, c'est qu'on a beaucoup de travail ici pour la tournée. Alors, mais ça, c'est correct parce que moi, quand ce projet-là, et il n'y a pas de date limite là, pour moi. Au partir du moment où moi, je fais 2024 encore un spectacle ici au Québec, je me promène. Tout ça se prépare d'ici quand même pour là-bas. Je ne suis pas obligé de m'en aller là-bas et tout ça. Et je parle avec les personnes là-bas qui me donnent un coup de main, qui me donnent des feeds et tout ça. Mais on n'est pas pressé. On veut le faire, puis on veut le faire dans la bonne façon. Et tu sais, si on le fait, et si on fait les démarches, puis tout fonctionne, tant mieux. Puis si ça ne fonctionne pas, moi, je continue ici, puis je vais continuer de faire mes choses pareilles, mais j'aimerais bien ça que tout ce qu'on se parle en présentement, que ça se concrétise. Hein.
Est-ce qu'il serait plus européen à ce moment-là? Parce qu'évidemment, Jerry Boulet, par exemple, ils ne connaissent pas vraiment.
Ce qu'on me dit pour là-bas, c'est qu'ils aiment beaucoup les imitations anglophones. Alors oui, des Français, autant que je fais Julien Clerc, que je fais Gilbert Bécaud, Joe Dassin, quelque chose comme ça. Et Johnny Cash, ça peut être un concept un peu comme ici avec les artistes décédés, mais qui sont inoubliables, bien sûr. Alors le spectacle des inoubliables pourrait se transporter là-bas. Le concept est intéressant pour les gens à qui je parle. Alors ça serait probablement, à moins que j'arrive là-bas avec des réunions plus précises et qu'ils me disent ben on irait peut-être plus à large, pas nécessairement des gens qui sont décédés, mais j'aimerais ça continuer parce que je me perçois ce que tu disais un peu tantôt, la nostalgie des gens. C'est gagnant, tu sais, puis ça me ressemble aussi. Fait que je trouve que ça amènerait bien ce que j'ai envie de faire. Là.
Si les gens veulent te suivre, voir tes dates de show sur Internet, tout est là.
MichaelRancourt.com, c'est mon site Internet. Toutes les dates de spectacles sont là. Marqué la tournée Les Inoubliables et autres spectacles aussi, parce que des fois, je fais autres spectacles aussi, mais tout est sur MichaelRancourt.com.
J'espère qu'on va te voir en show à Sorel.
C'est ça que là, je vais manger une petite poutine, là, parce que ça a l'air, la pizza a l'air bonne ici, là, mais la poutine aussi. Et je ne sais pas, il faudrait que je passe à la salle de spectacle. Pour voir les diffuseurs, quelque chose. Non, ça serait le fun. Puis, c'est un petit bout que je ne suis pas venu dans le coin ici pour présenter un spectacle. Et tu me disais que la salle, c'est une belle petite salle ici. Oui, ça sera bien le fun. J'espère bien.
Michael, merci d'avoir été là.
Merci, Luc. C'est très gentil. Puis c'est le fun, ton concept d'émission. On a le temps de se parler. Ça, c'est très rare.
Ben merci. Tu reviendras.
Merci, t'es bien gentil. Hey, merci, Thérèse.